conseil. Monsieur le vice-président du conseil municipal. Madame la présidente de l'église protestante de Genève. Monsieur le président des églises évangéliques libres. Monsieur le modérateur. Monsieur Jean-Claude Meucrier, curé de l'église catholique chrétienne. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale. Ce soir, nous sommes contents de vous voir. Ça nous fait chaud au cœur que vous ayez répondu présent à notre appel. Et en parlant d'appel, je vais tout de suite, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, vous demander un petit rappel d'usage qui consiste à ne pas oublier de rallumer vos téléphones portables à la sortie. Merci. Alors, en ce 8 mai, nous célébrons plusieurs événements. D'abord, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et, bien sûr, l'anniversaire d'Henri Dunant, marqué par le drapeau de la Croix-Rouge qui flotte sur la tour nord de la cathédrale et dans d'autres parties de la ville. Et puis, l'anniversaire d'Henri Dunant, c'est aussi la journée mondiale de la Croix-Rouge. Alors, c'est pour nous l'occasion de rendre hommage à l'engagement du CICR, qui est né, voici, 150 ans, à deux pas d'ici, très précisément à la rue de l'Évêché, où la Société d'utilité publique avait coutume de se réunir. Et pour mémoire, la Croix-Rouge est due à l'impulsion de 5 citoyens genevois, Henri Dunant, le visionnaire, le général Dufour, le juriste Gustave Moynier, ainsi que 2 médecins, le docteur Appia et le docteur Mounoir. Tous des protestants engagés dans la cité, nourris de valeurs judéo-chrétiennes, animés par la compassion et par le sens de la responsabilité, tous éveillés par l'esprit de Genève. Et si j'évoque ce socle éthique, c'est pour rappeler que Saint-Pierre, la proximité de Saint-Pierre avec la Croix-Rouge, n'est pas seulement d'ordre géographique. D'ailleurs, si je voulais souligner le lien ecclésial des origines, je devrais rappeler que le premier hôpital improvisé pour les blessés de Solferino était une église catholique, la Chiesa Maggiore de Castiglione. Alors, aujourd'hui, 150 ans plus tard, nous pouvons mesurer le chemin parcouru par le CICR et dans son sillage par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Quel chemin impressionnant, à la fois chaotique et fertile. Le chemin du plus vaste réseau humanitaire de la planète, dont l'action a permis de sauver d'innombrables vies et de redonner l'espoir à des millions de victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles, de dérèglements climatiques et de crises en tout genre. Au fil du temps et des épreuves, la Croix-Rouge a dû s'adapter aux conditions changeantes du terrain et faire face à de terribles défis. Pour répondre au mieux à l'urgence des besoins et du moment, la Croix-Rouge s'appuie sur des principes essentiels, les principes d'humanité, d'indépendance, de neutralité et d'impartialité. 150 ans d'humanité. En commémorant ce soir un siècle et demi d'engagement de la Croix-Rouge, c'est sa contribution à la dignité humaine qui est au cœur de notre attention. Protéger la vie et alléger les souffrances, tel est le chemin de la Croix-Rouge. Son action nous donne du courage et appelle notre reconnaissance. Vous savez peut-être que dans la tour nord de la cathédrale, il y a la plus grosse cloche de la ville, d'un poids de 6 tonnes, c'est la Clémence. La Clémence, c'est aussi une notion proche de la compassion, qui se dit en anglais « mercy ». Dans Le Marchand de Venise, Shakespeare la définit comme une double bienfaisance. Il fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. L'hommage que nous voulons rendre ce soir sera exprimé par des lectures de témoignages et par de la musique afin de célébrer la vocation universelle de la Croix-Rouge. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, la parole est maintenant à Henri Dunant.
Deux extraits du livre célèbre qui est à la base de toute l'action de la Croix-Rouge, Le souvenir de Solferino, paru à Genève en 1862. Dans le silence de la nuit, on entend des gémissements et soupirs étouffés, pleins d'angoisse et de souffrance, et des voix déchirantes qui appellent au secours. Qui pourra jamais redire les agonies de cette terrible nuit? Le lendemain, le 25, le soleil éclaira dans les spectacles les plus affreux qui puissent se présenter à l'imagination. Le champ de bataille est partout couvert de cadavres, d'hommes et de chevaux. Les routes, les fossés, les ravins, les buissons, les prés criblés, des champs sont ravagés, les blés et les maïs sont couchés, les haies renversées, les vergers saccagés. De loin en loin, on rencontre des mares de sang. Les malheureux blessés qu'on relève pendant toute la journée sont pâles. Les hommes, et plus particulièrement ceux qui ont été profondément mutilés, ont le regard hébété et paraissent ne pas comprendre ce qu'on leur dit. Ils attachent sur vous des yeux hagards, mais cette prostration apparente ne les empêche pas de sentir leur souffrance. Les autres sont inquiets et agités par un ébranlement nerveux et un tremblement convulsif. Et ceux-là, avec des plaies béantes où l'inflammation a déjà commencé à se développer, sont comme fous de douleur. Ils demandent qu'on les achève. Ils se tordent, le visage contracté, dans les dernières étreintes de l'agonie. Mais pourquoi avoir raconté tant de scènes de douleur et de désolation, et avoir peut-être fait éprouver des émotions pénibles, pourquoi s'être étendu comme avec complaisance sur des tableaux lamentables et les avoir retracés d'une manière qui peut paraître minutieuse, désespérante? À cette question toute naturelle, qu'il nous soit permis de répondre par une autre question. N'y aurait-il pas moyen, pendant une époque de paix et de tranquillité, de constituer des sociétés de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés en temps de guerre par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une telle œuvre? Pourquoi ne profiterait-on pas d'un temps de tranquillité relative et de calme pour étudier et chercher à résoudre une question d'une importance si haute, si universelle, au double point de vue d'humanité et de chrétienté? Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent, par exemple, à Cologne ou à Châlons, des princes de l'art militaire, appartenant à des nationalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu'ils profitent de cette espèce de congrès pour formuler quelques principes internationaux, conventionnels et sacrés, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des sociétés de secours pour les blessés dans tous les pays d'Europe?
9 septembre 1945, quelques semaines après l'explosion de la bombe atomique, le docteur Marcel Junot, chef de délégation du CICR au Japon, se rend à Hiroshima avec 15 tonnes de médicaments et de plasma sanguin. Voici deux extraits de son livre de souvenirs, Le troisième combattant. À 4 km environ du centre de la ville, toutes les habitations sont brûlées. Il ne reste que la trace des fondations et des tas de ferrailles rouillées. À 2 km, il n'y a plus rien. Tout a disparu. C'est une étendue rocailleuse jonchée de gravats, de poutrelles tordues. Nous sommes descendus du car et nous avançons lentement sur les ruines de la cité morte. Un silence absolu règne dans cette étendue sans vie. Pas un survivant ne fouille les décombres. De loin en loin, quelques soldats déblaient un passage. Au ciel, pas un oiseau. Le premier poste auquel nous nous arrêtons est installé dans une ancienne école, à moitié démolie. Rien ne protège de la pluie ou du froid les 80 malades étendus sur le sol. Des milliers de mouches se posent sur leurs blessures découvertes. Dans le bâtiment de la Croix-Rouge japonaise, il n'y a plus de fenêtres. Tous les appareils de laboratoire ont été mis hors d'usage. 600 blessés sur 1000 sont morts dans les premiers jours et sont enterrés n'importe où, aux abords de l'hôpital. On ne peut pas indéfiniment raconter l'horreur. On ne peut pas décrire l'un après l'autre ces milliers de corps étendus, ces milliers de visages boursouflés, de dos ulcérés, de mains suppurantes dressées vers le ciel pour leur éviter le contact d'un linge.
Partout où notre intervention eût été nécessaire.
Dans l'ombre qui m'entoure, je vois se dresser tous les corps douloureux, tous les visages anxieux, creusés par la souffrance, qui ont hanté ma route pendant 11 ans. Je revois les abyssins brûlés d'hypérite. Je revois ces milliers d'enfants torturés par la faim, ceux de Pologne, ceux de Grèce. Je revois les prisonniers russes sous le fouet de leurs sergents-majors, les fêtes Weben. Je revois le camp d'Omoti et ses aviateurs aveuglés par la lumière du jour. Je revois ces masques de terreur qui se détachent sur le désert blanc d'Hiroshima. Ces images ne sont pas d'hier. Elles sont d'aujourd'hui, de demain. Ces blessés, ceux captifs sont près de vous. C'est vous qui avez la garde. N'attendez pas les messagers de ce fragile espoir que des juristes ont tracé pour mettre une limite à la violence. Il n'y aura jamais assez de volontaires pour aller recueillir tant de cris de douleur, tant de plaintes et de faits au fond des prisons et des camps. Les appelants sont trop nombreux. Ce qu'ils attendent, c'est vous.
Thank you. délégué de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Inde lors du tremblement de terre de Bhuj dans le Gujarat en janvier 2001. Je suis arrivé à Bhuj le dimanche matin à 1h. Au coin des rues, des groupes de gens étaient agglutinés autour de maigres feux. Personne n'osait retourner à l'intérieur des rares maisons épargnées. Bientôt, j'étais moi-même engourdi par la peur ambiante et par le froid glacial. À 16h30, j'avais à peine sombré dans un sommeil agité qu'une violente secousse me réveilla. Autour de moi, la panique. Les gens pensaient que le cauchemar vécu la veille recommençait. À la lumière du jour, je n'ai eu aucun mal à comprendre leur terreur. Des maisons et des temples de la vieille ville, il ne restait plus de traces. Pas plus que des 70 000 habitants. Des milliers étaient probablement morts. Les autres avaient fui. Dans les quartiers avoisinants, les rues étaient encombrées de camions et de tracteurs sur lesquels s'entassaient les rescapés et les biens qu'ils avaient pu sauver du désastre. Une cinquantaine d'heures après la catastrophe, les secours de la Croix-Rouge ont commencé à arriver. Un premier convoi de camions s'est présenté amenant 30 tonnes de couvertures et de bâches fournies par la Croix-Rouge suisse. Un autre convoi en provenance de Delhi était en route, chargé de secours de la Croix-Rouge indienne. Le mardi, les premiers avions cargo se posaient à l'aéroport de Bhuj. Au bout d'une semaine, plus de 90 délégués et 7 unités d'intervention d'urgence venues du monde entier étaient à pied d'œuvre. Les sociétés de la Croix-Rouge norvégienne et finlandaise avaient monté un hôpital de campagne et la Croix-Rouge du Japon une clinique mobile. La Croix-Rouge allemande avait déployé une équipe de spécialistes de l'approvisionnement en eau et la Croix-Rouge britannique donnait un sérieux appui logistique à l'hôpital de campagne.
Témoignage de Shanaz, infirmière du Croissant-Rouge afghan. À Kaboul, peu après les événements du 11 septembre 2001, le violent pilonnage de l'aéroport força Shanaz, une veuve, mère de 4 enfants, à abandonner sa maison pour un endroit plus sûr. Comme d'autres Afghans, Shanaz avait déjà traversé une longue série de révolutions, de coups d'État, de guerres civiles et de bombardements par des armées étrangères. Depuis plus de 10 ans, elle travaille comme aide-infirmière dans un hôpital psychiatrique situé à la périphérie de la capitale. Elle est une des rares femmes à avoir été autorisée à travailler sous le régime des talibans. J'étais terrifiée par les bombardements, raconte Shanaz. Néanmoins, elle a maintes fois parcouru les rues désertées de la capitale pour se rendre à son travail. Je ne pouvais pas abandonner ces malheureuses, poursuit-elle. Ces femmes malades n'avaient personne d'autre pour prendre soin d'elles. Les gens comme Shanaz sont la colonne vertébrale du Croissant-Rouge afghan. Je n'ai à vous offrir que du sang, de la sueur et des larmes, disait Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette formule semble faite sur mesure pour les employés afghans du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui pourraient ajouter à cette trilogie la témérité.
Thank you. nom qui vous, qui a dû quitter sa maison une dizaine de fois à cause du conflit. Lorsque les combats reprennent, nous fuyons nos villages et nos champs restent à l'abandon. C'est devenu le rythme de la vie. La plupart du temps, nous sommes surpris. Il n'y a aucun avertissement. Nous n'avons pas le temps d'emporter quoi que ce soit avec nous. Nous sommes, pour la plupart, des agriculteurs et des commerçants. Mais avec la guerre, nous ne pouvons rien faire et nous sommes incapables de donner à nos familles ce dont elles ont besoin. Ce que nous désirons le plus, c'est la paix.
Témoignage de Janine, 25 ans. Capturée par un groupe armé des forces de libération du Rwanda, elle a réussi à s'échapper. Aujourd'hui, Janine est en phase terminale du sida dans les faubourgs de Goma. Ce sont des soldats venus du Rwanda qui m'ont kidnappée. J'étais commerçante près de Masisi. J'allais vendre la production de mon père au marché. Ils m'ont emmenée dans leur camp. Là, il y avait 20 jeunes filles. Nous devions faire la cuisine. Mais nous étions surtout là pour leurs besoins sexuels. Si une fille tentait de se débattre, elle était exécutée tout de suite. Nous, les filles, on devait parfois l'enterrer, même si elle était encore vivante. Aujourd'hui, je suis en train de mourir. Je ne peux plus manger. Je souffre. Mais je souffre surtout parce que je sais que ces barbares continuent de violer des femmes et qu'on les laisse faire.
Témoignage de Rosa Maria Castillo, originaire du Honduras. J'ai rencontré dans la rue une jeune fille que sa mère avait chassée. Je lui ai proposé de venir se réfugier chez moi. Elle avait un mari qui la battait. Plus tard, son mari est venu et il a incendié ma maison. J'ai tout perdu. Alors, j'ai dit à ma mère, « Je n'ai plus rien à faire ici. Je dois partir vers le nord et je sais que Dieu va m'aider. » Le voyage en train à partir de Tenochtitlan est très long. Les trains avancent lentement et le voyage a duré 3 ou 4 jours. Nous avions pris une dizaine de trains pour arriver à Laredo, en Texas. C'était triste. Plus je m'approchais de ma destination, plus je m'éloignais de ma famille. J'ai voyagé dans un train de transport de voiture. C'était difficile. J'ai passé 6 heures dans ce train. Ensuite, on a passé 8 heures à errer sur la route. On avait soif. On ne savait pas où demander de l'eau. Il n'y avait pas de maison à proximité. 2 voitures de police sont arrivées et nous ont embarqués. Ils nous ont posé des questions. Ils ont frappé certains d'entre nous. Et tout d'un coup, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Et un policier m'a dit, « Toi, pourquoi tu pleures ?» Je lui ai dit, « Tu sais pourquoi je pleure. Ce n'est pas parce que j'ai peur de toi ou des autres. C'est parce que j'ai laissé au Honduras
deux enfants que je dois éduquer et une mère qui m'attend.
Face à cette crise qui touche l'Europe, la Croix-Rouge demeure un acteur indispensable pour ces nouveaux pauvres qui perdent pied au fur et à mesure que le chômage s'étend.
Témoignage de Bachir, 28 ans, neurologue à l'hôpital de Damas et volontaire du Poisson Rouge arabe syrien. Je me suis rendu à Zahira jeudi après-midi afin de préparer 10 ambulances et 2 cliniques mobiles pour le week-end. Je dois veiller à ce que les médicaments et le matériel médical soient prêts. En général, je passe les journées de vendredi et de samedi au centre. Je suis heureux quand personne ne m'appelle le vendredi. Cela signifie qu'il n'y a pas de blessés. Voir de blessés me remplit de tristesse. Si j'arrive à stopper une hémorragie et à sauver une vie, j'éprouve une joie profonde. Le vendredi matin, nous vérifions toujours que les ambulances sont prêtes. Chaque équipe se compose d'un chef d'équipe, de 2 secouristes et d'un éclaireur qui évalue l'état des blessés. Pour faciliter l'entrée des ambulances dans des zones à problème, nous envoyons d'abord un véhicule en éclaireur pour évaluer les conditions de sécurité. Ceci dit, les ambulances n'ont pas toujours le droit de passer pour diverses raisons. Des problèmes persistent dans certains quartiers en raison de la confusion qui règne concernant l'emblème du Croissant Rouge. Il arrive même que notre neutralité soit remise en question et certains veulent que nous prenions parti. Mais notre neutralité et notre impartialité sont de mieux en mieux comprises. Nous aidons tous ceux qui ont besoin de notre aide. Nos volontaires transportent les blessés vers l'hôpital le plus proche, sauf si la personne blessée s'y oppose.
Témoignage d'Idriss Gachi, employé du CICR à Pechpeya, au Kosovo, lors de la guerre en Serbie de 1999. Je me souviens de ce jour où ils sont venus. Je n'osais pas fermer la porte de ma maison, de peur de donner l'impression de vouloir me cacher. 3 hommes sont entrés, je les ai accueillis, je leur ai demandé « Que puis-je faire pour vous ?»« Connard !» a hurlé l'un d'eux. « Pourquoi n'es-tu pas parti avec tes frères ?» J'ai dit « C'est ma maison. » Ils m'ont alors fait sortir de ma maison. Je ne sais pas comment Stan, mon fils, âgé de 10 ans, a fait pour venir, lui aussi. Il s'était caché derrière moi. L'un des hommes était en civil et les 2 autres portaient des habits de camouflage. L'un avait une kalachnikov à la main, l'autre un pistolet. Et puis, j'ai entendu le bruit de la rafale. Le type tenait sa kalachnikov à bout de bras et tirait dans ma direction. Je ne sais pas comment les balles sont parties, dans quelle direction, je ne sais pas. Je me souviens simplement que mon fils Stan m'a lâché la main et qu'il s'est mis de l'autre côté. J'ai regardé mon fils. Je lui ai demandé « Ça va? Tu es ok ?» Mon fils me regardait sans rien dire. Dans ces moments de violence extrême, où une minute devient un siècle, comment faire pour ne pas perdre pied? On se sent si petit, si impuissant. En une seconde, tout peut basculer, la famille, la maison. Dès lors qu'il n'y a plus de règles, plus rien de sacré, vous devez croire en Dieu, lui demander de vous préserver. On peut l'appeler Dieu ou ce qu'on veut, mais dans ces moments-là, vous êtes très proche de Dieu, parce qu'il n'y a personne d'autre pour vous aider.
Fais-moi Délégué du CICR au Yémen. J'ai été dans les affaires pendant environ 13 ans. Je n'aimais pas le business. Ça n'était pas ma place. C'est difficile de traiter avec des gens qui ne respectent pas leurs promesses. Depuis enfant, je voulais aider les gens. Avant chaque départ sur le terrain, je prie Dieu pour qu'il nous protège. La question importante à résoudre, c'est comment atteindre les prisonniers à visiter pour leur fournir de l'assistance. J'aimerais pouvoir aider tous les gens et atténuer leurs souffrances. Ce qui m'inquiète, c'est que la guerre s'étende et touche la région où ma mère vit. Oussaïd Saleh est mort en mission le 20 juin 2012 lors d'un bombardement, tout près de l'endroit où vit sa mère.
Thank you. Nous rendons hommage au dévouement exceptionnel
des femmes et des hommes engagés dans la Croix-Rouge, sans oublier celles et ceux qui ont perdu leur vie en œuvrant en faveur des victimes. C'est un homme lumineux, le pasteur Emmanuel Roland. Il va maintenant nous donner les consignes pour faciliter le déplacement vers le cœur de la cathédrale.
Si je suis éclairé, cher Jean-François, c'est par ta lumière, bien sûr. Nous sommes nombreux ce soir et je vous prie de écouter attentivement mes consignes afin de faciliter votre circulation depuis la nef vers le cœur, afin que vous puissiez y déposer une bougie allumée. Nous commencerons par les rangées qui sont devant, au début de la nef, et vous êtes invités à former deux files, l'une à ma droite et l'autre à ma gauche. On vous tendra une corbeille avec des bougies éteintes et vous pourrez les allumer aux bougies que vous tendront les jeunes gens qui se mettent derrière moi. Une fois vos bougies allumées, eh bien, vous allez dans le cœur de la cathédrale, vous les déposez sur les estrades et vous regagnez vos places par les travées latérales. Durant tout ce temps, nous serons accompagnés en musique par deux duettistes d'Afrique de l'Ouest, Draman Dambélé à la flûte Peul et au Ngoni, et Abdoulaye Diara au balafon. m'ont fait changer de continent. Il m'est choix l'honneur de remercier tous les artistes qui ont participé à cette soirée d'hommage. Et je commencerai bien sûr avec l'ensemble vocal de poche que je vous demande d'applaudir.
Merci d'être venu. Bonne soirée à tous et au 9 novembre.